Oui, bonjour. Alors, moi, je m'appelle Alexia Samuel, donc je vais enchaîner avec la présentation de la Commission européenne et de ce que fait l'Europe justement pour cette fracture numérique et pour l'inclusion des personnes peu lettrées. Donc, je viens de la Direction générale de l'emploi, des affaires sociales à la Commission européenne. Donc, en fait, c'est nous qui nous occupons du soutien aux politiques publiques en matière d'éducation des adultes et de formation professionnelle. Et donc, la Direction générale de l'éducation, elle, s'occupe plutôt de tout ce qui est programme Erasmus en la matière. Donc, ces thématiques-là reviennent à la DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion. Voilà, on est quatre à travailler pour ce sujet-là. Donc, c'est un vaste sujet, je vais essayer de vous présenter un peu ce qu'on fait en la matière. En l'occurrence, on s'occupe de tout ce qui est vraiment le vaste éventail de l'éducation et la formation des adultes, donc formelle, non formelle, informelle, à vocation professionnelle, à vocation personnelle, tout ce qui est à partir de la fin de la scolarité. Et de la fin de la formation initiale. Donc ma présentation va être structurée de manière assez simple. Je vais un peu essayer d'élargir la perspective à toute l'Europe et essayer de replacer un peu la Belgique dans le contexte européen. Vous présenter un peu le cadre politique qui sous-tend nos actions. Et puis je vais zoomer sur deux initiatives qui sont plus particulièrement pertinentes pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc moi j'essaie de réfléchir un peu à la dernière fois que j'ai été confrontée à des problèmes numériques, hein, parce que c'est aussi mon cas. J'ai appris à faire des GIFs seulement la semaine dernière avec mon portable. Ça me concerne aussi, mais voilà, c'était pour les élections qui arrivent dimanche. Et donc je me suis rendu compte que pour actualiser mon inscription au consulat, parce que je suis française donc je vote pour la France, il m'a fallu pas moins de 6 étapes en ligne pour arriver à actualiser mon dossier, consulter les programmes en ligne, télécharger des documents, ma carte d'identité, etc., justificatif de domicile, les scanner. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait pas moins de 6 étapes et je pensais justement à ces personnes peu lettrées, comme le disait Sylvie ce matin sur la première. C'est vrai que c'est une vraie... C'est une vraie difficulté, c'est une vraie réalité, cette fracture numérique. Ce que les Français appellent l'électronisme. Je ne veux pas faire d'erreur de terminologie, hein. Je sais, illettrisme, électronisme. Bon, c'est un terme un peu barbare, je n'aime pas particulièrement, mais en fait, pour nous, au niveau européen, donc en ce moment, notre priorité, c'est en particulier ces personnes que l'on dit avec peu de compétences de base, y compris le... Et donc ça concerne tout ce qui est lire, écrire, donc littératie, numératie, c'est pas très joli non plus en français, et compétences digitales. Et donc nous on se réfère essentiellement, donc moi pour actualiser mon dossier, j'ai dû faire preuve j'ai dû utiliser des manipulations, faire des manipulations techniques, et j'ai aussi dû utiliser mes capacités à trouver l'information, à la décrypter. Et donc vous êtes familier sûrement avec le sondage pour l'éducation, enfin le sondage PIAAC de l'OCDE qui mesure les compétences des adultes. Et c'est ce que PIAAC mesure en particulier pour cette compétence digitale, qui permet à PIAAC d'identifier un peu le niveau des compétences de base digitales des citoyens européens. Ce qu'ils appellent la résolution de problèmes dans un environnement riche en technologie, c'est-à-dire vraiment comment les personnes sont capables d'utiliser les outils et réseaux digitaux de communication pour acquérir l'information, l'évaluer, communiquer avec les autres, accomplir des tâches pratiques, etc. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec le test de l'OCDE PIAAC, mais je trouvais ça assez intéressant de vous présenter une des questions type. Donc ça, c'est une question de niveau 2. Hein, PIAAC fonctionne en niveau, comme ça, pour évaluer un peu les compétences de base des gens. Et donc là, la question, c'était arriver... Vous avez reçu la lampe de bureau, la couleur ne vous va pas, donc vous voulez l'échanger sur le site web. Et donc, il fallait, en 3-4 clics, trouver où était le service après-vente. Et ça m'a pris aussi un peu de temps même. Et arriver à remplir un bon d'échange pour... pour échanger la langue. Et donc, ça, c'est une question de niveau 2. Et donc, ce qui est intéressant, ce que l'OCDE révèle, c'est qu'en Europe, il y a seulement un adulte sur quatre qui arrive à passer ces questions-là de niveau 2. Et donc, nous, ce qu'on considère comme adulte avec peu de compétences de base en matière digitale, et aussi lire, écrire et compter, c'est le niveau 1. Donc niveau 1 ou moins. Donc ça vous donne un peu une idée de comment, parce qu'on parle souvent de PIAAC, mais concrètement on ne sait pas toujours à quoi ça ressemble. Ça vous donne un peu vraiment une idée du niveau, mais bon, vous travaillez avec ces publics-là toute la journée, vous le savez mieux que moi. Mais je trouvais que c'était assez révélateur. Et donc évidemment, PIAAC mesure les niveaux de littératie, numératie, compétences digitales. Et donc, on est bien conscient aussi à la Commission européenne que ce double handicap d'électronisme et illettrisme, comme le disait aussi Sylvie ce matin, sont deux facteurs qui font vraiment grossir la fracture numérique face à cette espèce d'injonction incontournable dont parlait Perrine à l'instant. Malheureusement, la Belgique francophone n'a pas participé au sondage PIAAC, donc la dernière mise à jour qui était en 2012, mais donc lire et écrire, vous l'avez peut-être dit ce matin, estime qu'un Belge, un adulte sur 10 en Fédération Wallonie-Bruxelles est analphabète ou en situation d'illettrisme. Nous, on utilise un autre proxy qui est assez intéressant et qui recoupe souvent les statistiques de personnes peu lettrées en Europe, c'est le taux d'adultes qui sont peu qualifiés. Donc c'est ceux qui ont au mieux une qualification du secondaire inférieur, donc le C2D en Belgique, merci Michel pour le... Donc qui ont tout au plus un C2D et qui n'ont pas encore le niveau de qualification CESS. Donc en général, ça recoupe aussi les données de PIAAC, même si pas toujours sur les gens qui ont peu de compétences de base. Donc en Belgique, c'est 23% de ces gens qui ont mieux une qualification du secondaire inférieur. Donc évidemment, les différents États membres ont des spécificités hein, par rapport à cette problématique. Par exemple, on peut voir que dans les pays de l'Est de l'Europe, les niveaux de compétences de base sont parfois beaucoup plus élevés chez les générations qui ont vécu le communisme. Tout le monde apprenait à lire et à écrire, mais ils peuvent avoir d'autres spécificités par rapport à cette problématique. Par exemple, des populations roms qui sont particulièrement touchées par les problèmes d'illettrisme. Donc chaque pays européen a ses spécificités, mais c'est une problématique européenne que tous les pays rencontrent, que ce soit les adultes peu qualifiés ou peu lettrés, et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'y apporter une réponse européenne également, et c'est ce à quoi on s'attelle à la Commission européenne. Qu'est-ce qu'on en pense et quel est le cadre politique? Donc, évidemment, nous, à la Commission, on estime que l'éducation des adultes, c'est non seulement une nécessité, c'est un bon investissement pour le futur, mais c'est aussi la meilleure protection sociale dont peut bénéficier un individu, et c'est aussi un droit que chaque personne devrait avoir. Donc, c'est pour ça que c'est le tout premier principe du pilier du socle européen de droits sociaux. Donc qu'est-ce que c'est ce socle? Vous en avez peut-être entendu parler, en fait c'est un ensemble de 20 principes qui consacrent des droits européens en matière de politique sociale pour chaque citoyen. Donc ça touche aux conditions de travail, ça touche à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ça touche donc aussi à l'éducation, donc le premier principe, hein, toute personne a le droit à une éducation inclusive et de qualité, hein, la notion d'apprentissage tout au long de la vie, donc le lifelong learning est aussi un principe très structurant dans notre action, et pas seulement pour le travail, hein, parce que déjà emploi, c'est vrai qu'on pense souvent qu'on forme les adultes simplement pour les besoins du marché du travail, mais c'est aussi une participation active à la vie en société, c'est aussi pour des questions de développement personnel, on englobe un peu toutes ces finalités de l'éducation. Et donc ce socle européen, avec ce socle, vraiment on proclame que l'éducation des adultes doit être un bien public, doit être un droit universel. Et c'est un peu le drapeau politique le plus fort qu'on ait actuellement à la DG Emploi pour porter un peu ces revendications-là. Bon, évidemment, c'est pas le... Donc ça a été quelque chose qui a été proposé par la Commission et adopté par les États membres, mais évidemment, c'est pas le début hein, de notre action en matière d'éducation des adultes. Donc je vais pas vous refaire toute l'histoire parce que ça n'a pas trop d'intérêt aujourd'hui pour le sujet qui nous intéresse, mais si je peux juste pointer quelques dates clés. Donc l'éducation des adultes, c'est quelque chose qui était déjà présent dans le traité de Rome, hein, au moment de la naissance de l'Europe en 57. Et donc Jacques Delors, qui était un des pères fondateurs de la construction européenne, s'est aussi beaucoup intéressé dans les années 90 à ces principes de lifelong learning. C'est vraiment là que l'apprentissage tout au long de la vie a commencé à émerger comme thématique phare des politiques européennes. Et donc dans les années 2000, on a les premières résolutions, les premiers grands textes sur l'éducation des adultes, sur la formation tout au long de la vie. Et donc si vous devez retenir seulement une date, c'est donc le développement de l'agenda pour l'éducation des adultes européens en 2011. Donc là, c'est vraiment la première fois qu'au niveau européen, les États membres se mettent d'accord sur un cadre politique d'action avec des axes et des priorités pour l'éducation des adultes. Mais donc tout ce qui est en vert, c'est un processus politique qui est bien spécifique pour la formation professionnelle. On travaille aussi en parallèle sur plus spécifiquement tout ce qui est éducation des adultes pour la formation professionnelle. Donc brièvement, qu'est-ce qu'on a dans cet agenda européen pour l'éducation des adultes, dont les priorités ont été renouvelées en 2015. Moi, je passe pas beaucoup de temps là-dessus, mais vous allez voir que déjà les compétences de base, et donc les compétences de base en matière numérique, sont déjà aussi bien présentes dans ces axes. Donc essentiellement, on essaie de travailler, donc ça c'est les grands principes, directeurs de notre action dans le secteur. On essaie bien sûr de travailler sur la gouvernance, hein, garantir la cohérence entre l'éducation et la formation et d'autres domaines d'action, améliorer la coordination parce qu'on sait que c'est un domaine d'action qui est extrêmement morcelé entre plusieurs portefeuilles politiques, entre une grande variété d'acteurs. On essaie aussi évidemment de prêcher plus d'investissements, tant publics que privés, parce qu'on se rend compte que, surtout dans certains pays européens, les investissements dans la matière sont extrêmement dépendants des fonds européens, du Fonds social européen en particulier, et puis quand il n'y a plus de fonds FSE, ben l'action s'arrête. Hein, donc beaucoup de pays... La stratégie pour une éducation des adultes est encore très embryonnaire et les investissements sont encore balbutiants, donc ça c'est vraiment un problème. On essaie de travailler là-dessus. On essaie aussi évidemment de travailler sur l'offre, hein, pour augmenter de manière significative l'offre de formation de haute qualité pour les adultes, surtout en ce qui concerne les compétences de base, compétences numériques incluses, et aussi de travailler non seulement sur l'offre, mais évidemment sur la demande, essayer de stimuler un peu l'adhésion à cette offre de formation grâce à des stratégies d'information, d'orientation, de motivation, parce que les statistiques nous disent que le premier obstacle, la première chose qui explique la non-participation des adultes à l'éducation, c'est la motivation, c'est le fait que l'intérêt de se former n'est juste pas conscientisé, si on peut dire conscientisé. Je travaille en anglais, donc je m'exprime pas souvent en français, je fais ce que je peux. Donc on travaille aussi, le troisième axe, c'est évidemment la flexibilité et l'accès. Donc là, on est aussi sur ces publics avec peu de compétences de base, peu lettrés, en élargissant évidemment l'accès à la formation, en mettant en place des procédures pour cerner, évaluer les compétences de base, pour offrir à ces adultes peu qualifiés ou avec peu de compétences de base des opportunités de formation adéquates, personnalisées, des opportunités aussi de certifier, reconnaître, valider ces compétences, de les valoriser sur le marché du travail, de les valoriser pour continuer à se former. Et enfin, évidemment, on travaille sur la qualité hein, des systèmes de formation et d'éducation, également sur la formation de formateurs, etc. Donc ça, c'est un peu nos grands axes, et vous voyez que les compétences de base y ont une place relativement importante. Donc le socle européen des droits sociaux, le cadre politique, ça c'est des principes qui sont très beaux, hein, c'est notre vision, donc c'est un très beau projet, c'est un idéal type. Mais donc, quelle est l'adéquation avec les réalités et comment est-ce qu'on fait pour pour mettre tout ça en œuvre. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est clairement pas le tableau qu'on peut voir en Europe. Je vous l'ai dit, donc le développement des politiques dans le domaine est très très inégal. Dans certains pays, notamment les pays du Nord, évidemment, il y a une tradition extrêmement forte d'éducation populaire, en Belgique, en France également, alors que dans d'autres pays, c'est encore relativement balbutiant ou sans grand financement. Il y a aussi beaucoup de défis structurels. Je parlais de la gouvernance qui est peu coordonnée, le peu de perception des bénéfices chez le public cible, etc. Et puis, évidemment, aussi un manque de monitoring, un manque de preuves robustes que l'éducation des adultes. Nous, on sait que ça véhicule plus d'inclusion sociale, un mieux-être, plus de participation à la vie démocratique, etc. Mais il nous manque encore vraiment de la recherche régulière et des statistiques vraiment, enfin, pas convaincantes, mais en tout cas, on a aussi du mal à faire passer le message, les messages clés de cette recherche, et on a du mal encore à convaincre, que ce soit dans les entreprises, que les décideurs politiques, que les adultes, enfin, les apprenants eux-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on concrétise cette belle vision? Ben alors, pour l'agenda l'éducation des adultes en particulier, on a un réseau qui s'appelle le réseau des coordinateurs nationaux. Donc Michel Monbeck de la Fédération Wallis-Bruxelles est là aujourd'hui. Donc en fait, on donne des subventions à des entités nationales pour qu'elles informent les gens sur ce qui se passe au niveau européen, pour qu'elles fédèrent les acteurs, pour qu'elles mettent en place des projets. Donc voilà, typiquement, Michel est là aujourd'hui pour relayer un peu les messages de cette conférence. Donc ça, c'est un réseau qu'on a en place. Ça fait partie des choses qu'on met en place pour concrétiser un peu cet agenda. Mais donc, de manière plus générale, ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que la compétence européenne en matière d'éducation, c'est pas une compétence exclusive ni une compétence partagée. Donc là, vous avez un peu un graphique qui rappelle ça. Donc on est vraiment en soutien aux politiques publiques des États membres, c'est-à-dire qu'on ne peut être, en tant que Commission européenne, que force de proposition. C'est-à-dire qu'on propose, le Parlement et le Conseil qui réunit les gouvernements, enfin les ministères, les ministres de l'Éducation adoptent. Donc ils s'engagent eux-mêmes à mettre en place ce qu'ils ont rédigé, enfin ce qu'on a rédigé, ce qu'ils ont approuvé, amendé. Mais donc on ne va jamais... tout est question de ce qu'on appelle la soft law, enfin de pression politique, de naming and shaming. On va jamais... rien n'est jamais obligatoire dans le domaine de l'éducation. On ne peut pas courir après les États et leur dire « Mais quand même, vous aviez dit que vous feriez ça et c'est pas trop le cas. » Donc on ne peut pas leur demander de nous rendre des comptes en la matière. Et donc ça, il faut bien en être conscient quand on étudie ce domaine d'action dans la sphère européenne. Donc ça ne peut donner lieu qu'à une législation qui n'est non contraignante. En l'occurrence, le véhicule politique, c'est la recommandation, essentiellement. Donc, en ayant ça à l'esprit, je voulais en particulier zoomer sur deux initiatives qui ont trait au thème de la conférence aujourd'hui. Tout d'abord, les parcours de renforcement de compétences. Donc, c'est précisément une recommandation qui a été publiée en 2016. J'ai laissé des petits flyers sur la table à l'extérieur de la salle si ça vous intéresse. Donc, si on revient un peu à ces 58 millions d'adultes qui ont peu de compétences de base en Europe, y compris compétences digitales. Donc c'est quand même plus de 5 fois la population belge. On sait qu'en général, ces adultes-là, vous le savez mieux que moi, sont fâchés avec l'école, qu'ils ne voient pas l'intérêt d'y revenir, qu'ils n'ont pas la confiance en eux nécessaire, qu'il y a beaucoup d'obstacles sur leur chemin, pas assez de temps, pas assez d'argent, une famille... s'occuper de leur famille, etc. Donc, et aussi souvent un manque de confiance en soi, d'estime de soi, comme le soulignait aussi Sylvie ce matin, pour se réinvestir dans des parcours de formation. Donc en fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment produire une initiative législative qui leur permette de se réengager facilement dans l'éducation, avec confiance, aussi avec plaisir. Et donc ce qu'on a fait, donc en fait la commission a a publié une espèce d'agenda général pour les compétences en 2016, donc qui incluait beaucoup de choses, par exemple une révision d'Europass, le CV Europass en ligne que vous connaissez probablement, une révision du cadre européen des certifications, plus de coopération sectorielle dans certains secteurs d'économie pour mettre en place des véritables stratégies de compétences. Bon, il y avait beaucoup de choses dans ce package un peu. Et en fait, il y avait aussi cette recommandation qui ciblait plus particulièrement les adultes à qui il manquait des compétences de base. Donc encore une fois, c'est pas un texte qui est contraignant pour les États, mais ceci dit, ils se sont engagés à améliorer la situation sur leur territoire en la matière. Donc en fait, ce qu'on a vraiment voulu proposer à ces adultes, c'est de se réengager dans la formation pour acquérir un minimum de compétences de base, y compris les compétences digitales, et potentiellement, si intérêt il y a, d'acquérir le niveau de qualification supérieur. Mais bon, on peut très bien s'arrêter à juste... Déjà, rien que faire un cours en matière de compétences digitales, c'est déjà très bien. C'est vraiment chacun... En fait, le but, c'est de fournir une espèce de parcours individualisé où chacun y trouve son compte et chacun évolue selon ses besoins et ses envies. Et donc, on a proposé trois étapes qui sont... Donc, la première, donner l'opportunité à ces adultes, une fois qu'ils sont évidemment identifiés et repérés par les professionnels du secteur, ce qui est déjà pas évident. Donc la première chose, c'est évidemment les bilans de compétences, donc d'identifier les compétences qu'ils ont déjà, celles dont ils manquent, en particulier les compétences de base, et voir un peu définir avec eux un plan de formation adéquat selon ce qu'ils ont envie de faire, selon la finalité aussi de la démarche. Donc la deuxième étape, c'est fournir à ces adultes des parcours de formation qui sont flexibles, qui sont adaptés à leurs besoins, qui avec des méthodes pédagogiques adaptées, évidemment un personnel de formation formé à ces problématiques spécifiques. Et puis la troisième étape, évidemment, c'est rendre ces connaissances nouvellement acquises et ces compétences nouvellement acquises visibles, les reconnaître, faire en sorte que l'apprenant puisse poursuivre son chemin. Donc évidemment, c'est pas des choses qui sont nouvelles. Nous, on prétend pas venir proposer aux professionnels du secteur cette espèce de formule magique. On sait très bien que ça existe, les bilans de compétences, la formation adaptée, la validation, vous faites ça tous les jours. En fait, la vraie valeur ajoutée de ce qu'on voulait proposer ici, c'est vraiment cette espèce de fluidification du parcours, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est déjà pas facile pour ces publics-là de se réengager dans un parcours de formation. Mais donc, on voulait en plus éviter qu'ils doivent frapper à différentes portes pour aller au forum ou chez Actiris pour faire leur bilan de compétences, frapper à la porte du prestataire de formation pour se former en compétences de base, puis au prestataire de formation pour acquérir une qualification professionnelle, puis l'organisme certificateur pour... Enfin, comme on est conscient que l'offre est extrêmement morcelée, la gouvernance aussi, on voulait faire en sorte que vraiment... Enfin, donner une impulsion dans les États pour que la gouvernance soit un peu mieux coordonnée, pour que l'offre de services, quel qu'il soit, durant le parcours de l'apprenant, soit plus fluide et plus cohérente, et pour vraiment ne pas décourager encore plus ces personnes qui doivent souvent aller frapper à plein de portes différentes pour se former, pour financer leur formation, etc. Donc c'était un peu l'objectif de cette recommandation. Évidemment, il y a plusieurs éléments facilitants, comme on les appelle. On est conscient que l'orientation, le soutien, le conseil, par exemple, c'est des choses qui sont cruciales tout au long de ce processus. Donc, c'est aussi des choses dont on parle dans cette recommandation. Et donc on a proposé ça aux États, sachant que ce n'est pas du tout nouveau et qu'évidemment, on leur a demandé aussi de construire sur l'offre déjà existante et l'expertise des praticiens, en l'occurrence. Et donc on leur a proposé ça a été adopté en 2016 et on leur a dit voilà, d'ici à l'été 2018 dites-nous ce que vous avez fait. Enfin, donc on leur a pas demandé des comptes, mais on leur a quand même demandé de nous envoyer une lettre et de nous décrire un peu comment ils s'étaient emparés de cette recommandation. Donc certains évidemment développent de nouvelles stratégies, hein. Par exemple, peut-être que vous avez entendu, en France ils développent le un grand plan d'investissement dans les compétences. Donc ils vont cibler d'ailleurs en particulier les personnes peu qualifiées, et ça pose des vrais problèmes par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Par exemple, donc on a d'un côté ce grand plan d'investissement dans les compétences, 14 milliards d'euros, et à côté on a cette réforme auquel le grand plan d'investissement est adossé, donc une réforme qui s'appelle pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui modernise notamment le compte personnel de formation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est un compte qui permet aux gens d'accumuler en travaillant des heures de formation et de les redépenser quand ils veulent et où ils veulent dans l'offre de formation.
Numérisé.
Numérisé, voilà. Et donc, j'y viens. Et donc... Donc voilà, c'est ce que j'allais dire. On marche un peu sur la tête parce que, enfin, je ne parle pas au nom de la Commission européenne, mais donc on est sur une appli, enfin on est sur un site web pour ce compte personnel de formation, donc déjà qui exclut de fait une partie de la population. Et donc là, l'idée c'est d'aller vers encore plus de désintermédiation et de créer une app pour que l'apprenant puisse librement choisir sa formation, la payer en ligne, donc vraiment directement de l'apprenant aux prestataires de formation. Donc là, on est dans une désintermédiation totale, et en même temps, on investit 14 milliards d'euros pour les personnes peu qualifiées, l'électrisme, l'électronisme, etc. Et on est, comme le disait très justement Perrine, dans une espèce d'invisibilisation, de déni qu'il y a, une personne sur 7 en France, en l'occurrence, qui ne saura probablement pas du tout utiliser cette app et qui aura besoin que l'humain soit remis un peu au cœur du processus. Donc voilà, c'était pour souligner un peu le paradoxe pour le thème qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc ces États membres, pour revenir à mon sujet, mettent en œuvre de manière plus ou moins efficace. Ceci dit, c'est vrai que pour la France, c'était un signe politique assez fort. Donc de manière plus ou moins efficace cette recommandation, soit avec des nouvelles stratégies, soit en mettant sur pied des groupes de travail, soit en s'appuyant par exemple sur le travail des coordinateurs nationaux. Chacun a ciblé parmi ses publics peu qualifiés ou avec peu de compétences de base des publics différents. Donc parfois on cible tout le monde, parfois on cible, en l'occurrence en Belgique, la lettre envoyée par les autorités. Enfin, ça dépend de quelles autorités. Hein. Cibler en particulier les migrants ou ce qu'on appelle les NEETs, hein, les jeunes qui ne sont ni en emploi ni en éducation et formation. Certains se focalisent sur certaines étapes du parcours. Hein, par exemple, en Flandre, ils ont décidé de travailler sur leur système de validation des acquis de l'expérience. En Belgique francophone aussi, c'était un des points d'attention. Et donc, les États ne sont pas emparés de la recommandation de la même manière en ce qui concerne le financement. On réalise qu'il y a encore un très gros les États comptent énormément encore sur le FSE. Comme je vous l'ai dit, ça induit quand même énormément de problèmes en matière de soutenabilité de l'action, hein, de durabilité de l'action, parce qu'on sait qu'à la fin de, en gros, 2020-2022, les projets seront terminés. Donc ce qu'on a pu conclure de la mise en œuvre de cette recommandation dans les États membres, et je vous invite à lire ce qu'on appelle le Staff Working Document, si vous allez sur le site de la Commission, pour ces parcours de renforcement de compétences, on a mis en ligne un document qui explique un peu ce que les pays font en la matière, notamment en Belgique. Ce qu'on a conclu de la mise en œuvre de cette recommandation, c'est qu'il y a un effort significatif qui est fait par des États, mais on est encore sur des initiatives très parcellaires, très morcelées, qui concernent certains publics cibles, et on n'a pas... Il nous manque un peu cette véritable vision, cette stratégie de long terme, correctement financée, cohérente, sur comment prendre en charge ces publics-là avec peu de compétences de base à l'échelle régionale ou nationale, ça dépend des pays. Donc c'est un peu le message qu'on a essayé de leur faire passer, c'est un peu l'état des lieux en Europe pour ces publics-là. Et donc, évidemment, nous, en tant que Commission européenne, on essaie de soutenir un peu la mise en œuvre de cette recommandation. On ne fait pas que leur dire ce qu'il faut faire et pourquoi on pense que c'est bien. Donc, évidemment, il y a tout l'acquis communautaire. Je disais, c'est vraiment pas du tout nouveau, ces thématiques-là, au niveau européen non plus. Donc, on essaie un peu de se baser sur les cadres politiques que j'ai évoqués au début. On essaie aussi de travailler avec des groupes d'experts. Hein. Régulièrement, les autorités régionales, nationales de chaque pays sont investies dans des groupes de travail avec lesquels, au sein desquels on discute ces thématiques-là. En général, les autorités en charge de l'éducation, de la formation et de l'emploi, évidemment. On essaie aussi de faire le lien avec d'autres dispositifs existants. Je parlais d'Europass, je parlais du cadre européen de certification. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui est financement. On a notamment le FSE, dont j'ai beaucoup parlé. On a aussi un programme qui s'appelle EASY. Et donc ça, c'est un programme avec lequel on finance pas mal d'échanges de pratiques, parce que c'est ce qu'on fait beaucoup au niveau européen. Hein. Je parlais de notre rôle de soutien aux politiques publiques. Ça, l'échange de pratiques, c'est réellement... C'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Donc, par exemple, typiquement sur cette recommandation de parcours de renforcement de compétences pour les personnes et en peu de compétences de base, on a impliqué 7 pays. Donc ça, c'est le deuxième cycle, c'est la deuxième année qu'on fait ça. 7 pays qui se sont réunis pendant 3 jours, à deux moments différents de l'année, pour réfléchir un peu à comment mettre en œuvre cette recommandation, comment lui donner corps au niveau national. Et donc, par pays, on a une délégation de 7 personnes. La Belgique francophone, la Flandre ont participé. On avait autant des gens de la Fédération Wallonie-Bruxelles que de la Wallonie. Donc, on a réuni des délégations qui incluaient, par exemple, on avait le Forum, Bruxelles Formation. On avait Michel qui était là en tant que coordinatrice nationale. On avait les autorités wallonnes. Donc, on a essayé un peu de réunir ces gens autour de la table. Donc, ils pouvaient à la fois se parler entre eux, parce qu'ils ont... Enfin, il se parle au quotidien, mais c'est vrai que là, c'était vraiment l'occasion de s'extraire de son quotidien de travail et de réfléchir à cette problématique spécifique pendant 3 jours. Et ils avaient aussi, évidemment, l'occasion de se parler entre eux, les 7 pays, et de réfléchir à ces thématiques communes. Et bon, et comment vous faites, vous, en Finlande? Ce serait peut-être intéressant pour la Belgique, etc. Donc ça, c'est typiquement l'échange de pratiques qu'on essaie de faciliter. Et on espère que ça a permis, notamment à la Belgique francophone, de faire un pas de plus. Et la délégation était par ailleurs très active et très dynamique et très investie pour les élections qui arrivent, pour faire passer le message pour les élections qui arrivent dimanche. Donc voilà, on publie aussi régulièrement des appels à projets. Hein. En ce moment, on en a un sur, en particulier, cette étape de formation individualisée, donc la deuxième étape des parcours de renforcement des compétences dont je parlais. Donc c'est ouvert à tout le monde, y compris aux organismes de formation. Je vous invite à aller vérifier en ligne sur notre site web. C'est moi qui gère en particulier cet appel à projet. Donc on donne aussi de l'argent pour donner corps un peu à ces initiatives. Donc ça, c'est un peu comment on passe de cette vision idéale à la réalité et au niveau national pour cette recommandation en particulier. Et enfin, la deuxième initiative que je voulais vous présenter, c'est pas moi qui la gère, mais donc je suis pas spécialiste de la question, mais je pense qu'elle était vraiment très pertinente par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. C'est le cadre européen des compétences numériques. Est-ce que quelqu'un est familier avec ce cadre européen dans la salle? Est-ce que vous l'avez vu? Bon. Et peut-être plus avec le cadre européen des compétences clés. Ça vous parle peut-être un peu plus. Donc, en fait, dans cette grande stratégie des compétences dont je vous parlais, dans ce grand package auquel on a réfléchi en 2016, il y avait notamment la révision de la recommandation européenne sur les compétences clés pour l'apprentissage tout au long de la vie, qui date déjà d'il y a 12 ans, et qui était vraiment un cadre européen de référence commun sur les compétences clés pour les décisionnaires politiques, pour les praticiens, pour les partenaires sociaux, pour les apprenants eux-mêmes. Chacun pouvait un peu s'en emparer comme il voulait. Et donc on s'est dit qu'il était grand temps de la remettre un peu à jour, et vous voyez que les compétences en lecture et en écriture et la compétence numérique qui occupe aussi une place prépondérante. Et donc notamment ce qu'on a voulu faire avec cette révision là en 2018, c'est mettre l'accent sur ces compétences de base, et aussi, parce que c'est donc dans notre agenda politique en ce moment, et mettre l'accent sur la compétence numérique en particulier. Et qu'est-ce que ça voulait dire mettre à jour ce cadre européen de compétences clés pour la compétence numérique? Ça voulait dire essentiellement l'aligner avec ce cadre spécifique, cadre européen des compétences numériques, qui est un outil qu'on a développé spécifiquement pour la compétence numérique. Donc il est né en 2013, et c'est pareil, il fournit en fait un référentiel européen commun de la dextérité numérique, si je peux dire, dans la société d'aujourd'hui. Et il définit des compétences et des niveaux de compétences dans 5 grands domaines. Je ne vais pas vous les détailler en détail parce que j'ai plus énormément de temps, mais globalement, donc on est sur 5 domaines, sur 21 compétences numériques regroupées en 5 grands domaines. Donc on a l'information et les données, donc là on est sur gérer des données, donc les stocker, les organiser pour les retrouver, les conserver, faciliter la gestion, donc vraiment typiquement utiliser la fonction classique de gestion, stockage des fichiers, traiter ces données, par exemple avec un tableur, un logiciel de traitement d'enquête, enfin, utiliser Excel, ce genre de programme. Ensuite, il y a la communication et la collaboration, donc interagir avec des individus et des petits groupes, échanger dans divers contextes liés à la vie privée et la vie professionnelle, donc se savoir se servir d'une messagerie électronique, d'une messagerie instantanée, etc. Partager et publier, donc là c'est tout ce qui est évidemment réseaux sociaux, plateformes de partage, blogs, etc. Collaborer, donc plateforme de travail collaboratif, partager un document avec Google, éditer un document en ligne, etc. S'insérer dans le monde numérique, donc là on est sur une utilisation plus stratégique, partager du contenu, maîtriser les enjeux de la présence en ligne, se positionner en tant qu'acteur social sur la toile, etc. Création de contenu, donc développer des documents, adapter les documents, programmer. Protection et sécurité, on est tout ce qui est évidemment sur des problématiques de protection de la vie privée, ce genre de choses. Et enfin, environnement numérique, donc là on est vraiment plus sur une compétence technique, résoudre des problèmes techniques, identification de besoins et solutions, construire un environnement numérique. Donc comment est-ce que ça marche? Donc ça c'est vraiment pas du tout clair, ça a été pourtant conçu pour être clair, mais c'est pas le cas. Je trouve que celle-là est beaucoup plus claire. Donc, en fait, ces 5 domaines sont donc déclinés en 21 compétences, qui eux-mêmes sont déclinés en descripteurs de compétences. Et donc, on a 8 niveaux selon la dextérité, donc des premiers pas jusqu'à l'expertise, la haute expertise. Voilà. Donc, bon, vous êtes familier avec ce genre de référentiel de compétences, je suppose. En fait, ce qu'on veut proposer avec ce référentiel de compétences au niveau européen, que vous utilisez sûrement, enfin vous utilisez des référentiels tous les jours, mais c'est vraiment juste c'est comme tout ce qu'on fait au niveau européen, c'est vraiment des pistes de réflexion pour comment est-ce qu'on réfléchit à la compétence numérique, comment on la structure, et en fait on invite simplement les parties prenantes à s'en emparer comme elles veulent. Donc ça peut être de la traduction, de l'adaptation vers des profils de compétences. Ça peut être créer des outils d'évaluation de compétences, créer des programmes de formation, former les formateurs, créer des outils d'évaluation et de certification. Donc en fait, par exemple, en fait, les parties prenantes peuvent donc s'emparer de ces cadres de référence, enfin, ces référentiels de compétences à plusieurs niveaux. Par exemple, en Allemagne, les ministères des Länder de l'éducation, parce que comme vous le savez, c'est très décentralisé, ont choisi de vraiment s'emparer de ce DigiComp, hein, de ce cadre européen, la compétence numérique, pour imposer des objectifs dans les écoles, des objectifs d'apprentissage. En Italie, on a aussi une élaboration des cours de culture numérique, donc ils ont vraiment repensé tous leurs cours de culture numérique dans la région Émilie-Romagne à partir de ce DigiComp pour créer des ressources de formation pour les citoyens, par exemple. Donc on voit que c'est des référentiels, pareil, on n'impose rien, on ne prétend pas avoir la connaissance puisque c'est vous qui travaillez avec les publics cibles au quotidien, mais on est juste force de proposition, on propose cet outil de réflexion pour qu'éventuellement autant les décisionnaires politiques que les parties prenantes, que les praticiens s'en emparent et voient un peu comment ça peut leur être utile. Typiquement, ça peut être une idée de projet pour un Erasmus+, pour candidater à un Erasmus, d'essayer de s'emparer de cet outil et de voir comment l'intégrer dans vos réalités. Voilà, donc c'était un zoom sur ces deux initiatives. Je vous remercie de votre attention. J'accueille vos questions avec plaisir. Et n'hésitez pas donc à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ceux qui peuvent. Voilà. Merci.